Nos vamos inmediatamente ahora para el tema climático. Señor Calvás, tenga usted la gentileza de saludar a doña Valerie Masson del Mott. Ella preside el primer grupo del intergubernamental, el grupo de expertos sobre el cambio climático, el GIEC. Es directora de Ciencias del Clima en París. Y es directora de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas. Ya nos han explicado que todo lo que estamos viviendo y este monstruo de fuego que se está devorando miles de hectáreas en Europa, en España, en Francia, en Italia, y quién sabe a dónde va a llegar, que tiene a los ingleses ahogándose en Londres a unas temperaturas jamás sospechadas, que ha matado a más de 500 personas, es la consecuencia del cambio climático. Y del cambio climático siempre nos hablan de las fábricas, de la emisión de gases, del petróleo, del carbón, de los carros y hasta de las vacas. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que definitivamente, después de esta tarjeta amarilla que hemos recibido de la naturaleza, debemos hacer para evitar que esto se repita? Y usted puede reducir todo este discurso a lo que le quede más cómodo.
Madame Valérie Masson-Delmotte, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio.
Bonjour,
hein.
Hola y gracias por su invitación. Je vais parler en français.
D'accord, mais vous avez compris la question?
Non, est-ce que vous pouvez me la répéter?
Bien sûr, bien sûr. Bon, mon collègue veut savoir, bon, après ce qu'on est en train de vivre en Europe, avec cet record en chaleur, la canicule, les incendies, enfin, qu'est-ce que doit être le premier changement, le changement urgent que nous, tous les humains, mais surtout les habitants en Europe, doivent faire afin de que ça ne se répète plus, afin de pouvoir changer cela?
En fait, on est devant un double défi. Le premier défi, c'est de vivre avec les conséquences du changement climatique dû à l'influence humaine. Et vraiment, j'espère que chacun peut s'approprier les connaissances scientifiques qui montrent qu'en Europe, notamment autour de la Méditerranée et en Europe de l'Ouest, les conditions propices aux incendies chaudes, sèches, s'intensifient pour chaque incrément de réchauffement planétaire supplémentaire, pour chaque quantité de gaz à effet de serre rajoutée dans l'atmosphère.
Pues nos dice que lo primero, Julio, es entender que estamos ante un reto. Y el reto principal es que hay que vivir con esto. Hay que vivir con las consecuencias de un cambio climático que ya estamos viviendo. Particularmente, nos dice ella, en Europa mediterránea, así como en toda Europa del Oeste, pues será inevitable tener que vivir con estas altas temperaturas, los incendios y el resultado de un cambio que está acá.
Le pregunto desde París, Juan Pablo, a nuestra invitada, donde, por ejemplo, la alcaldía ha lanzado un plan París 50 grados centígrados. ¿Es así? ¿De plano vamos a llegar a estos 50 grados? ¿No hay nada que podamos hacer para revertir o al menos para detener esta, temperaturas que van aumentando cada año?
Madame Masson-Delmotte, par exemple, à Paris, on est déjà en train de parler d'un plan Paris 50 degrés, ce qui veut dire qu'on doit déjà commencer à penser qu'il y aura des jours où l'on va vivre à 50 degrés Celsius.
Oui, en fait, on a deux enjeux, comme je le disais tout à l'heure. Le premier, bien sûr, c'est agir sur la cause de ce réchauffement, réduire massivement les rejets de gaz à effet de serre, avec des enjeux majeurs dans tous les secteurs d'activité, notamment l'énergie, mais aussi, en fait, faciliter que chacun puisse avoir un style de vie le plus bas carbone possible. Mais même si on le fait, on aura une poursuite du réchauffement inéluctable. Et donc, le deuxième volet, c'est anticiper, agir par anticipation pour limiter la casse, limiter les conséquences, notamment pour les villes, réduire l'effet des îlots de chaleur, protéger ceux qui sont les plus fragiles, mais aussi transformer les pratiques de gestion des forêts pour éviter d'avoir trop de combustible dans les forêts, parce qu'on voit bien que les systèmes de réponse d'urgence se voient dépassés dès aujourd'hui.
Bueno, pues nos dice que sí, que tenemos que pensar que eso es lo que viene, Florencia. Y quiere volver sobre la primera pregunta, porque nos dice, mire, ¿qué nos toca hacer? Pues número uno, actuar ya, ahora mismo, sobre el calentamiento global y contener la generación de los gases de efecto invernadero. Cada uno de nosotros tiene que encontrar la forma de reducir estos gases, y esto, por ejemplo, va... nos obliga a mirar hacia la generación de energía. Pero también nos toca entender un asunto, y es que hay que empezar a vivir en las ciudades limitando las consecuencias de este cambio climático que ya estamos viviendo. Por ejemplo, reducir las islas de calor, o sea, los sectores en donde más se puede estar concentrando el calor en las ciudades, proteger a las personas que pueden ser más vulnerables a estos cambios drásticos del clima y particularmente al calor excesivo, proteger los bosques y tratar de reducir en los bosques la presencia de elementos que puedan convertirse en combustibles y que llevarán a lo que estamos viviendo hoy, incendios que se vuelven muy difíciles de atajar porque sencillamente los cuerpos de emergencia no van a dar abasto.
Esa es la realidad, pero se confronta con otra realidad. Es que Europa dice ahora que la transición del carbón tiene que ser más lenta, que la situación actual hace que se vuelva a necesitar con fuerza la energía de carbón por la situación en Ucrania. ¿Cómo compaginar esas dos cosas? La realidad del cambio climático, pero las necesidades de energía en este momento.
¿Y cómo podemos equilibrar esta realidad difícil para Europa hoy, a causa de la guerra en Ucrania, au sujet de la generación de energía? Porque moins de gas de effet de serre, ça serait peut-être ne pas utiliser le charbon pour générer l'énergie, mais à cause de la guerre, il faut retourner au charbon. Donc comment équilibrer cela?
Oui, on est vraiment devant une situation complexe à court terme, mais on a cet enjeu de dépendance pour notre approvisionnement en énergie fossile de pays qui ne sont pas attachés aux droits humains, qui ne sont pas respectueux de la démocratie, ou d'entreprises d'ailleurs, qui tapent la confiance dans la science, certaines multinationales du charbon, du pétrole ou du gaz ont joué un rôle majeur de marchand de doute sur les connaissances sur le climat. Et donc, au-delà de la gestion urgente de pénuries, il y a un enjeu à accélérer l'utilisation d'énergies renouvelables notamment, et aussi de jouer sur la demande, ce qu'on appelle en anglais « efficiency », c'est-à-dire arriver à réduire la demande en énergie, en matériaux non renouvelables, en somme, en eau, pour permettre à chacun de vivre décemment dans la limite, dans le respect des limites planétaires. Et donc, c'est pas simplement une gestion de pénurie, là, c'est vraiment construire des styles de vie qui soient réellement soutenables par des transformations profondes que chacun peut porter à son échelle, mais qui ont besoin de soutien politique, notamment pour les personnes les plus fragiles.
Pues nos dice que es una situación demasiado compleja a corto plazo, porque sin duda hemos generado una dependencia de nuestro aprovisionamiento de combustibles fósiles para la generación de energía, de la cual hoy resulta muy difícil escapar. Hay que confiar en la ciencia y hay que mirar hacia las formas alternativas para generar energía. Sin embargo, también hay que darnos cuenta que las multinacionales del petróleo, del gas, del carbón, jugaron un rol importante en las conferencias del cambio climático y un rol importante para retrasar el cambio que es hoy necesario para los humanos. ¿Qué toca mirar hacia ahora? Pues empezar a reducir la demanda energética. Cada uno de nosotros empezar a encontrar la forma de consumir menos energía, energía producida por estos combustibles fósiles. Y dice ella, vivir en el respeto de los límites planetarios. Entender que todos tenemos que ponernos unos límites para poder respetar la vida en el planeta.
Juan Pablo, ¿cómo se entiende que en otros lugares del mundo se presenten ahora olas de frío extremas con temperaturas, por ejemplo, en Argentina de -10 grados, a pesar de ese calentamiento global?
Et comment peut-on comprendre ce qui est en train de se passer dans d'autres endroits du planète, par exemple l'Argentine, où il y a déjà des températures qui sont au-dessous de 10 degrés Celsius, moins 10 degrés. Est-ce que c'est aussi relié à cette situation du changement du climat?
En fait, dans un climat qui se réchauffe, puisqu'on ajoute des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur qui s'accumule. À cela se superpose aussi une variabilité, bien sûr, spontanée du climat. Donc, on a de temps en temps des épisodes froids, mais à l'échelle planétaire, ils sont moins fréquents et moins intenses. Et par contre, un effet direct de l'accumulation de chaleur, c'est une augmentation des événements chauds, plus fréquents, plus intenses, au-dessus des continents, dans l'océan, avec donc des manifestations dangereuses pour la santé, pour les écosystèmes. Souvent, quand on parle de changement climatique, on met l'accent sur ces événements extrêmes, mais on a aussi des changements graduels qui vont être facteurs majeurs de risque. La fonte, par exemple, des glaciers, de la neige en altitude, ça va entraîner une baisse de l'approvisionnement en eau pendant les saisons sèches. C'est une limite très dure à l'adaptation. La montée graduelle du niveau de la mer qui a accéléré les risques associés pour le littoral qui vont s'intensifier dans les décennies, dans les siècles à venir, ce sont aussi des enjeux majeurs pour lesquels il est urgent d'anticiper pour ne pas gérer crise après crise, mais pour construire un développement qui soit résilient, qui protège en fait les conditions de vie des plus jeunes d'aujourd'hui.
Pues nos dice la señora Valérie Masson del Motte que en un clima que se está calentando, en un planeta que se está calentando, vamos a ver esta superposición de situaciones climáticas extremas, episodios muy, muy fuertes de un calor extremo, de un calor bastante elevado, que en otros lugares pues se verán contrastados con un frío también extremo. Todo esto está relacionado y nos dice es un efecto directo de los de las circunstancias que generan el calentamiento climático, porque finalmente aunque nos podemos enfocar en los elementos o en los momentos más críticos, esto es constante. Por ejemplo, lo veremos en los océanos, en donde se van a estar dando cambios graduales por el incremento de las temperaturas. Poco a poco se estará dando el descongelamiento de los glaciares, lo cual va a llevar a dos consecuencias. Por un lado, en las temporadas de alto calor habrá una reducción muy grave de la cantidad de agua disponible para el consumo humano, pero al mismo tiempo se estará dando un incremento en los niveles del mar, lo cual nos tiene que llevar desde ya a reflexionar sobre lo que va a pasar en las zonas del litoral, en donde sin duda estaremos enfrentando la desaparición de costas enteras. Así que lo que dice ella es, empecemos a anticipar, porque el planeta no podrá entonces empezar a convertirse en un gerente de crisis, en donde estaremos es atendiendo una crisis tras otra crisis, sino que más bien sepamos que los cambios vienen y hay que tratar de ir adelante de ellos.
Ha trabajado usted mucho, está trabajando mucho usted en divulgación científica. Quiero recordar que ha escrito un par de libros para niños. ¿Acaso somos ya una generación perdida?
Madame Masson del Motte, mon collègue, nous dit que sans doute vous avez déjà travaillé, vous travaillez déjà sur le sujet de la divulgation pour les enfants, en tout ce qui concerne ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi les enfants? C'est parce que nous, comme adultes, nous sommes déjà une génération perdue?
Non, en fait, ce que je pense profondément, c'est que ce n'est pas aux enfants de porter la charge mentale de l'action pour le climat. C'est aux personnes qui sont aux commandes aujourd'hui de le faire. Et plus les personnes ont des niveaux de responsabilité élevés, plus en fait ils doivent porter cette charge mentale d'agir maintenant. Par contre, un enfant d'aujourd'hui, toute sa vie va se passer dans un contexte de transformation profonde, des transformations subies parce que le climat change, on le voit en ce moment en Europe, et des transformations choisies pour construire une économie bas carbone, pour s'adapter à un climat qui change. Et donc, je pense particulièrement important d'inclure l'éducation, dans les connaissances de chacun, dans sa formation initiale à l'école, mais aussi à l'université, tout au long de la vie, de ce qu'on appelle la littératie climatique, c'est-à-dire comprendre les causes de ce réchauffement climatique, de même que comprendre les causes de l'érosion de la biodiversité, comprendre les implications, mais aussi connaître les leviers d'action qui existent, parce qu'il existe en fait dans tous les secteurs, dans toutes les régions, des solutions qui sont disponibles, mais qui ont besoin d'être mises en œuvre, d'être mises en priorité. Et que l'on identifie comme obstacle pour l'action pour le climat, notamment auprès des décideurs, c'est un manque de littératie climatique. Parfois, les enfants en savent plus que leurs grands-parents. C'est aussi un manque de perception de l'urgence à agir. Et cette perception ne change parfois que trop tard, c'est-à-dire quand on est devant la catastrophe.
Nos dice que ella, no, todo lo contrario, Rafael, piensa profundamente que no podemos descargar en los niños esta responsabilidad de entender qué es lo que nos estamos enfrentando. Al contrario, es a los adultos quienes deben entender con mayor conciencia el alto nivel de responsabilidad que tenemos, sobre todo con esos niños que luego tendrán que vivir este planeta. Y entre más elevado sea el nivel de responsabilidad y de alcance de los adultos, pues mayor debería ser la conciencia sobre las transformaciones que tienen que hacerse. En cuanto a los niños, pues sí, lo que se tiene que también empezar es a formar e incluir en la educación de cada uno de estos menores unos programas en donde se entienda la importancia de una economía baja en carbono, que comprendan los niños desde muy chicos cuáles son las causas de este cambio que estamos viviendo, las implicaciones y sobre todo cuáles son esos cambios, esas palancas que se podrían mover para poder contener esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos elementos que tienen que convertirse en una prioridad? Pero lo que a ella le preocupa es esa falta de percepción de urgencia, una percepción que deberíamos tener todos de lo que estamos viviendo y que siente ella pareciera que estuviéramos haciendo a un lado. Yo quiero preguntarle a la señora Masson del Mott sobre el alimento, sobre nuestra comida, porque hablamos mucho de combustibles fósiles y energía y carbón y petróleo, pero ¿y las vacas y la ganadería? ¿Por qué no se habla tanto de ello al momento de hablar del cambio climático cuando estos también tienen un efecto sobre los gases de efecto invernadero? Madame Masson del Mott, je voudrais m'arrêter sur un autre sujet. On parle beaucoup du carbone, on parle des combustibles fossiles, mais on parle pas autant des vaches, des produits qui viennent justement de l'élevage et qui ont aussi une production de gaz à effet de serre qui est grave pour la planète. Pourquoi ce n'est pas comme ça pour l'élevage, et si c'est pour les fossiles, les combustibles fossiles?
Alors, en fait, les rapports du GIEC de 2021-2022 sont très clairs. Le premier facteur du réchauffement à ce jour, ce sont les émissions de dioxyde de carbone qui sont liées à la combustion d'énergie fossile et à la déforestation. Le deuxième facteur, c'est la hausse également des émissions de méthane, qui dépend des fuites associées aux énergies fossiles, mais aussi dans le monde de l'augmentation de l'élevage de ruminants. Et donc, si on veut limiter le réchauffement à venir, la première chose, c'est limiter la hausse de la somme du cumul des émissions de dioxyde de carbone passées, présentes et futures. C'est vraiment une condition clé pour parvenir à limiter le réchauffement, de réduire massivement les émissions de CO2. Et c'est seulement quand on atteindra des émissions de CO2 à zéro net, c'est-à-dire éventuellement contrebalancer des émissions difficiles complètement à supprimer par une capacité à enlever le CO2 et le stocker, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra limiter le réchauffement.
Oui.
Pour le méthane,
oui.
C'est un gaz à effet de serre puissant, mais qui a une durée de vie courte dans l'atmosphère, et donc réduire fortement les rejets de méthane.
Oui, oui, Madame Masson del Mott, je dois vous interrompre parce qu'on a un autre interview. Merci bien de nous avoir accompagnés ce matin sur la W Radio. Une bonne journée à vous. Y nos dice ella que el problema es que hablar de las vacas es hablar de metano, y ese no es el primer elemento que está generando el calentamiento global. Ella insiste en las emisiones de dióxido de carbono, y eso es lo que se tiene que limitar. Tiene que llegarse una reducción para que esto esté en cero. Y luego sí nos podríamos preocupar del metano, que tiene también un impacto sobre nuestro planeta, pero que es un gas que no resulta tan grave como lo es el dióxido de carbono que viene de los combustibles fósiles.